Bah merci déjà d'être si nombreux, je vois déjà une salle pleine. Ça commence bien, hein, je veux dire. Ça commence bien cette nouvelle édition d'Étonnant Voyageur, avec une rencontre avec un auteur d'un fait de premier plomb, auteur extrêmement populaire, qui est Maxime Chattam, qui a la gentillesse de venir discuter avec nous pendant une petite heure. Évidemment, je vous laisserai la parole pour vous préparer déjà vos petites questions pour Maxime Chattam, qui a envie d'être torturé par vous. Plus la torture, c'est quelque chose qu'on peut retrouver à l'occasion dans vos livres, donc ça, c'est plutôt pas mal. Qui a notamment deux ouvrages, mais bien d'autres en dédicace tout à l'heure sur le stand Albin Michel. Alors, Maxime Chattam, son nom vous dit forcément quelque chose, vous avez forcément à un moment ou à un autre, soit évidemment lu l'un de ses ouvrages, ou vu en pile, que ce soit en librairie, ou même pourquoi pas dans une boutique de gare, des grosses piles avec son nom. Maxime Chattam, juste pour qu'on se rende compte, en général, un Maxime Chattam, c'est traduit dans combien de langues ?
Bonjour.
On va commencer comme ça.
C'est une bonne question. Je sais pas, à la maison, une fois, j'avais compté, c'est le côté un peu amusant à terme quand on écrit un roman, c'est de voir arriver les exemplaires dans les langues étrangères et de prendre son livre, d'avoir passé autant de temps à l'imaginer, à l'écrire, à le corriger, et de l'avoir dans les mains et de se dire, bah, là, je ne peux même pas le relire parce que je ne lis pas le roumain, le chinois. Donc, une fois, je m'étais amusé à compter ce qu'il y avait. Il y avait 17 langues différentes, mais après, vous dire si chaque bouquin est traduit, je ne sais pas, il y en a qui sont plus traduits, d'autres moins. Mais
forcément.
Oui, grosso modo, une quinzaine, entre 15, 17, 18, peut-être 20 maintenant.
En tout cas, vous êtes considéré comme l'un des écrivains français contemporains, et très jeunes écrivains français contemporains, à être traduits un petit peu partout. Vous présente très souvent comme le maître du thriller. Voilà. Alors, avant qu'on vienne un petit peu sur votre art, sur toutes les facettes de votre bibliographie, juste une question toute bête. Est-ce que ça vous énerve, cette étiquette maître du thriller ?
Ben, ça ne peut pas m'énerver, dans le sens où c'est quand même quelque chose de très positif. Et quand on fait une littérature comme celle que j'essaie de faire, c'est-à-dire une littérature qui est très populaire, qui est très et qui se revendique populaire au sens noble du terme, partager l'envie de raconter une histoire. Moi, j'essaie de faire un divertissement. Mon objectif, avant tout, c'est de prendre le lecteur par la main et de me dire que chapitre après chapitre, il va être embarqué dans l'histoire, qu'il va passer un bon moment. Donc, c'est vrai que la structure inhérente de mes romans, chapitre relativement court, souvent une mise en suspense, les Américains appellent ça cliffhanger à la fin du chapitre, fait qu'on est un peu des livres très documentés. On est vraiment dans les codes du thriller. Alors après, maître du thriller, moi j'ai pas cette prétention. Puis, il faut aussi l'apprendre avec un peu de recul, parce que dès qu'un auteur français fait un roman type thriller qui marche un peu, on l'appelle tout de suite le maître du thriller français.
Ah bah, une étiquette même qu'on retrouve même sur certaines publicités, dites donc.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que le nouveau maître du thriller français, vous l'avez presque tous les ans sur mes livres, mais vous l'avez aussi sur 5 ou 6 autres auteurs français. Donc il ne faut pas en tirer une gloire qui n'a pas lieu d'être.
Non, mais justement, qu'est-ce qu'on entend par thriller ? Parce que quand on regarde votre bibliographie, vous touchez à des genres très différents les uns des autres, et vous avez des univers très différents.
Alors, il y a thriller et thriller. Je m'explique. Le thriller, à la base, tel qu'on le voit, tel qu'on le définit, c'est à la fois une structure narrative, c'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure, chapitre très court, cliffhanger en fin de chapitre, c'est-à-dire une mise en tension, en suspense, ce qui fait que, vous savez, ce petit côté très irritant quand on est dans son lit le soir assez tard, on se dit demain matin je me lève pour aller bosser, donc à la fin du chapitre j'éteins la lumière, et à la fin du chapitre on se fait ah merde, bon allez encore un chapitre, et 3h du matin vous dites merde, c'est ça un thriller. Alors après, les Américains l'ont tellement écrit, tellement défini le registre, qu'on a tendance à considérer que le thriller par définition est un roman 10 policiers, avec une intrigue, avec un crime, avec qui fait quoi. Moi, j'ai envie d'élargir le thriller. Pour moi, c'est vraiment une structure narrative. C'est une forme. Après, cette forme-là peut être calquée dans différents domaines. Guillaume Musso, à mon sens, fait des thrillers romantiques. Il y a des thrillers historiques. Un thriller n'est pour moi pas nécessairement une histoire policière avec des crimes et des enquêteurs, mais avant toute chose, une structure narrative. Et vous pouvez la calquer absolument à tout ce que vous voulez, le tout étant si vous voulez respecter l'idée du thriller, de respecter une certaine forme d'écriture, c'est-à-dire chapitre court, documentation, etc. Quand je fais Autre Monde, ce sont des romans d'aventure, mais ce sont pour moi des thrillers, mais des thrillers d'aventure, grand public, un peu féerique, alors que d'habitude je fais des romans plutôt thrillers assez noirs, assez adultes.
Chez vous, on peut aussi bien aller dans presque le roman noir avec une structure de thriller, que presque dans la fantasy, le fantastique, enfin on va dans des domaines très variés tout le monde.
Ouais, et d'un thriller à l'autre, j'aime bien... Moi si vous voulez, au début de ma carrière, entre guillemets, ça fait 10 ans cette année que j'écris, donc les premières années, les 6 premières années...
Et combien de livres ?
15 je crois, 15,
ouais. Quand même.
Ouais, il y en avait deux qui étaient écrits avant, mais... On va dire, j'en ai écrit 13 en 10 ans, il y a 15 qui sont publiés.
Et les formats, quand même.
Oui, mais en même temps, alors ça, c'est un truc qui, moi, m'amuse toujours, c'est... On me dit souvent, mais comment vous faites ? J'ai envie de dire, mais comment font les auteurs quand publient un livre tous les 3 ans ? Moi, j'ai, comme tout le monde, 24 ans dans les journées, j'ai 7 jours par semaine, c'est ma passion, c'est mon envie, j'ai le luxe inouï de pouvoir en vivre, donc je me lève le matin, comme tout le monde, pour aller bosser, sauf que à 8h30, je suis devant mon écran, au lieu d'être dans une boîte quelconque, de l'autre côté de Paris. Et du coup, bah, j'ai 8 heures, 9 heures, 10 heures, 12 heures par jour pour écrire. Et bah, forcément, si vous ne faites que ça toute la journée, ça va très vite écrire. Si vous êtes méthodique, organisé dans la préparation, dans la structure, dans les voyages d'organisation, pour préparer les recherches, un livre, on ne met pas 10 ans pour l'écrire. Après, on peut essayer de prendre son temps, de réfléchir, est-ce que la bonne idée. Mais quand on a l'habitude, qu'on a fini par acquérir une certaine aisance, un certain fonctionnement, j'ai envie de dire que finalement, écrire est... tant que c'est un vrai plaisir tous les jours, alors se lever le matin pour le faire, comme tout le monde le matin, le réveil seul, moi j'ai envie de rester au lit, hein, mais je mets un coup de pied, je traite des pieds, et puis dès que je suis devant mon écran, ça commence à aller mieux, et une heure plus tard, je me dis, quelle chance j'ai de pouvoir faire ça tous les jours. Donc ça va vite finalement.
Est-ce que vous êtes devenu écrivain parce que vous n'êtes pas devenu comédien?
Alors j'ai envie de dire oui, et en même temps, heureusement. D'abord parce qu'un jour je me suis quand même vu à la télé et c'était une catastrophe, faut bien le dire. Et puis j'étais pas à l'aise en fait. J'aimais pas trop l'idée de devoir être le VRP de moi-même. Le comédien, tant qu'il n'est pas connu, est obligé de se vendre auprès des directeurs de casting en permanence. Et je trouvais ça abominable d'aller voir des mecs en leur disant « Faites-moi confiance, je suis le meilleur, c'est moi qui va faire le rôle au mieux, etc. » Je disais « Je brasse et je vends du vent. » Et moi j'étais pas à l'aise avec cette idée-là. Et j'avais du plaisir à jouer, mais c'était là que s'arrêtait mon plaisir de comédien. Et je me suis dit, le problème c'est que le métier de comédien, jouer, ça ne représente que 10% de son métier. Et les 90% du reste ne me satisfont pas. Donc je ne peux pas faire ce métier, en tout cas essayer de le faire. Donc j'ai eu la chance de faire des petites choses à un moment, à la fin, au moment où j'ai arrêté, de commencer à gagner de l'argent, à tourner pas mal. Et à ce moment-là, j'ai arrêté, j'ai mis l'argent que j'avais de côté, et pendant un an, j'ai pu commencer à écrire et voilà, me faire plaisir. Et c'est là que j'ai vraiment pris conscience que mon avenir, mon équilibre d'être humain passait par l'écriture. Si ça pouvait pas être un métier, en tout cas, un vrai hobby sur le long terme.
Mais, pardon, la publication de votre premier livre, c'est aussi une affaire de rencontre, en quelque sorte.
Ouais, ouais. Oui, c'est vrai, c'était avec Michel Lafond. Alors, c'était une rencontre, c'est-à-dire que j'avais conscience que dans la vie, on doit avoir de la chance pour réussir ses rêves. Que sans chance, à un moment ou à un autre, sans un petit coup de pouce, on n'y arrive pas. Mais je voulais aussi limiter un maximum la chance. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'à l'époque, j'ai écrit, après la comédie, il y a un moment où il a fallu vivre aussi, donc j'ai commencé à faire plein de petits boulots différents pendant 2 ans, j'ai enchaîné tout ce qui est possible et imaginable pour écrire. Et puis à un moment, j'ai quitté un boulot où on m'avait filé au final une vraie proposition, avec une vraie carrière, avec un salaire important, etc. Et dans une grande société d'importation. Et je me rendais compte, en fait, on m'a convoqué, je vous fais l'histoire longue, et comme ça sera fait. Et en gros, le grand patron m'a convoqué un midi pour me dire qu'il me filait un CDI, un beau contrat, etc. Et j'ai filé ma dème la semaine d'après, en lui disant, en fait, je peux pas faire ça, parce que c'est un métier où je passe mes journées à bosser, le soir, je rentre à pas d'heure, je compte pas mes heures, les week-ends, je bosse, j'ai de la pression, des dossiers, des trucs. J'étais pas heureux. Et je me suis dit, un jour, je vais être à 40 ans, je vais me regarder dans le miroir, et je vais me dire, c'est bien, tu t'es mis à l'abri financièrement, t'as mis ta famille à l'abri, mais est-ce que t'es heureux pour autant? Et j'avais l'impression que c'était pas le cas. Et je me suis dit, je peux faire ce choix, parce que j'ai 23 ans, 24 ans, je vais laisser tomber, je vais faire autre chose. C'est là que j'ai choisi d'être libraire. Et j'ai essayé d'être libraire dans une
grande enseigne. Dans une grande surface, voilà.
Dans une grande enseigne, en me disant qu'il ne fallait pas être libraire dans une petite librairie pour le plaisir du métier, mais être libraire de le faire pour avoir des horaires précis, pour pouvoir rentrer chez moi et écrire, pas comme je faisais avant avec des horaires pas possibles, pour pouvoir écrire le soir et les week-ends et les vacances. Et en même temps, dans une librairie qui brasserait du volume pour pouvoir avoir un vrai. À un moment ou à un autre, avoir un petit levier auprès des représentants pour pouvoir avoir des contacts dans l'édition. Et donc pendant 2 ans et demi, j'ai été libraire à la FNAC où j'ai essayé de.
Vous avez dit non ?
Oui, j'ai dit oh, oui, clairement, oui. Je leur fais pas de pub, je ne m'en cache pas, c'est pas pareil. Et j'ai passé un très bon moment et simplement, voilà, j'ai essayé d'adapter les petits trucs que j'avais appris dans l'apport à mon rayon et j'ai boosté les chiffres de vente de mon rayon en un an, ce qui fait que ça a attiré les regards des reprès, etc., puis des éditeurs, et j'ai pu rencontrer des éditeurs comme ça. Je leur ai rien dit, j'ai continué d'écrire mon bouquin pendant ce temps. Et puis au bout de 2 ans et demi, un jour, un matin, j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à contacter les gens que j'avais rencontrés. Parce qu'au départ, je connaissais personne dans l'édition, je n'avais pas de moyens de pression ou de copinage possible. Et on sait tous que dans la vie, c'est quand même vachement plus simple quand on connaît des gens. Je connaissais personne. Donc il a fallu que je crée un réseau. Et donc j'ai créé ce réseau pendant que j'écrivais mon bouquin. Et pour créer ce réseau, j'ai décidé d'être libraire dans une surface qui avait du volume.
Alors,
ça s'est fait comme ça. Voilà,
donc, justement, le fait d'avoir été libraire, est-ce que le rapport avec les lecteurs et les clients, ça a eu un impact sur la manière dont tous ces lecteurs peuvent percevoir une histoire, quelles sont leurs attentes?
Alors, il y a eu un vrai tournant à ce moment-là, à ce sujet-là. Pas en termes d'impact sur ma façon d'écrire, mais en termes d'impact sur le besoin de me rassurer. Comme tout type qui écrit, et surtout quand il commence et qu'il n'a jamais été publié, qu'il n'a jamais eu le moindre succès, on doute énormément. En même temps, même après 10 ans et 15 bouquins et un certain succès, on doute encore, je vous le dis tout de suite, mais on n'est jamais sûr de bien faire. Mais à l'époque, je me disais juste, est-ce que ce que je fais, où je prends beaucoup de plaisir, est-ce que ça peut plaire à quelqu'un d'autre que moi? Et ce qui m'a fait énormément de bien à l'époque, c'était de me rendre compte que les livres qui étaient mes livres de référence pour écrire, et mes goûts en général étaient des goûts grand public. Ça ne voulait pas dire que dès que je le mettais dans les mains de quelqu'un, la personne trouvait ça formidable. Mais de manière générale, le grand public, donc statistiquement, on va dire 8 personnes sur 10, quand je conseillais un bouquin qui pour moi était une référence absolue dans la matière, 8 personnes sur 10 revenaient moi en disant c'était juste génial, j'ai adoré, encore un autre dans ce genre-là. Et je me suis dit, alors peut-être que si mes goûts, naturellement, sont populaires, plaisent, je les partage. En fait, j'ai cette chance d'avoir des goûts que je partage avec la plupart des gens. Finalement, j'ai la chance d'être absolument banal comme type dans mes goûts. Du coup, j'écris des histoires qui nous ressemblent tous, donc qui plaisent à tous. C'est, je pense aujourd'hui pour ça que ça marche. Et ça m'a rassuré. Je me suis dit finalement, je vais écrire des histoires qui, moi, vont me procurer un vrai pied pendant l'écriture, mais qui, du coup, peut-être pourront plaire aussi à d'autres que moi, et pas seulement à ma maman.
À votre avis, est-ce qu'il y a une sorte de complexe français, pour ne pas dire un peu de mépris, d'un certain lectorat français pour la littérature que l'on qualifie de populaire?
Alors, aujourd'hui, il y a 10 ans, je vous aurais dit les choses autrement. Aujourd'hui, avec l'expérience, après avoir tourné pas mal en France, avoir été à l'étranger, pas mal de contacts avec les journalistes, etc., et beaucoup avec les lecteurs, mon discours est différent. Je pense aujourd'hui que le lecteur en général n'a absolument aucun problème avec cette notion de littérature populaire. Le lecteur, il est comme vous et moi, il s'en fout à partir du moment où... j'ai envie de dire, moi je rentre dans une grande surface, si en tête de gondole le bouquin que je prends, le 4e de couvre, me parle, je le prends, je ne me pose pas plus de questions et je ne vais pas chercher à dénicher le petit truc derrière, sous prétexte que ça c'est un auteur qui n'est pas connu, donc ça va me plaire. En revanche, il y a ce phénomène-là, chez certains de vos confrères, je ne parle pas pour vous, mais où c'est vrai que dans le journalisme...
Je le regrette, hélas.
Ouais. Dans le journalisme, on le voit assez souvent, il y a une forme de vision. Alors, il y a deux éléments. Il y a d'abord une vision qui est assez tellement prédéfinie de ce que doit être la littérature sous toutes ses formes, y compris dans le polar. Et après, il y a aussi une vision qui n'est pas faite de préjugés, mais qui est faite d'archaïsme, où il y a une autre vision qui est faite de... Voilà ce que sont les bons polars en France et qui sont toujours régis par les codes de la littérature policière des années 80 et dans lesquels finalement ne se retrouve qu'une petite partie d'un lectorat, mais pas le lectorat au sens large du terme. Il y a des auteurs formidables hein, là-dedans, mais qui sont des auteurs qui portent l'héritage du polar à la française, un vrai polar pas du thriller, c'est-à-dire des histoires assez noires, très ancrées dans le réel, dans le social, parfois très politisé, et voilà. Et donc du coup, moi, je pense pas qu'il y ait cet a priori de la part du lecteur, en tout cas.
Je vais prendre un exemple précisément d'un écrivain que vous aimez énormément, qui est Stephen King. Et vous voyez, par exemple, aux États-Unis, on a de nombreuses thèses sur lui, on a de nombreux essais, il est en littérature générale, et en France, on le retrouve en littérature de genre, il est un peu regardé de haut.
Ouais, ouais. Mais alors vous savez qu'aux États-Unis, pendant très longtemps, il a été regardé de haut. Je vous souviens, et pour lui, ça a dû être son plus grand moment d'autosatisfaction à ce sujet. Il y a quelques années, si vous connaissez Stephen King, vous connaîtrez tous son pseudonyme.
Je pense qu'on a beaucoup d'amateurs de littérature fantastique ici.
Stephen King a écrit pendant longtemps sous le pseudonyme de Richard Bachman. Et pendant très longtemps, c'était un vrai secret, ça ne se savait pas. Et dans les années 80, donc Stephen King était déjà très 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 populaire, il avait vendu je ne sais pas combien de dizaines de millions de livres dans le monde entier. Il écrivait de temps en temps sous Bachman, qui n'avait pas le même succès que lui, forcément. Et un jour, un des plus grands journalistes qui critiquait souvent King, qui considérait que King ne faisait pas de la vraie littérature, mais un truc, une espèce de soupe populaire absolument marketée en toute autre chose, ce type a écrit, en sortant au bouquin de Bachman, disant « Ce livre est très très bon, c'est formidable. Finalement, si Stephen King avait su écrire, voilà ce qu'il aurait écrit.
»
Voilà, et 3 ans plus tard, quand King a avoué qu'il était Bachman, ce journaliste a mangé sa feuille. C'est absolument horrible pour lui, mais...
Alors,
excusez-moi pour finir de répondre à votre question. C'est vrai que King n'est pas vu en France comme il est vu aux États-Unis, mais ça commence à aller mieux, parce que, comme vous l'avez souligné, il y a pas mal d'ouvrages qui théorisent sur lui, sur son écriture, et puis parce qu'il écrit, mine de rien, maintenant, depuis presque 40 ans, et qu'il a installé, avec le temps, dans le temps, en prenant son temps, un tel succès, un tel... global, qu'il y a un moment où on ne peut plus nier une évidence, et que du coup, même en France, on voit bien qu'il est de plus en plus reconnu, et qu'il devient même une référence, y compris dans la presse spécialisée, qui n'a pas nécessairement lu ou qui ne le connaît pas particulièrement, mais qui reconnaît que c'est une référence dans le domaine.
Alors, c'est évidemment une de vos références, c'est un choc que vous avez eu, je crois, à l'adolescence, Stephen King, mais quels ont été les autres écrivains fondateurs de votre imaginaire, Maxime Chattard ?
Il y en a eu quelques-uns. Alors, c'est vrai qu'il y a eu Stephen King, façon très très brutale, de front frontal avec le ça, son roman ça, qui était pour moi vraiment une révélation
monstrueux.
Ouais, exactement. Et, en même temps, prendre un clown pour faire peur, ça semble facile, parce que comme le dit un américain que je connais, il y a deux genres de personnes sur Terre. Il y a les gens qui ont peur des clowns et les clowns. et donc voilà, c'était pour moi une vraie référence, ce bouquin. Après, il y a eu un auteur français qui... Alors, Saint-Malo, vous devez le connaître, parce que je ne sais pas si c'est encore le cas, mais je sais qu'il a cohabité avec Paris pendant très longtemps ici, à Saint-Malo même, qui s'appelle Serge Brussolo, et qui est un auteur qui... J'ai jamais compris pourquoi il n'avait pas eu la reconnaissance. Il est très connu, etc., mais à mon sens, il devrait être la vraie référence. Le Stephen King français, c'est Serge Brussolo. C'est comme ça depuis les années 80. Et bien, curieusement, non, pas tant que ça. Il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas... voilà, pour moi, ça a été une vraie référence quand j'étais gamin, et il l'est encore très souvent. Et puis après, j'ai découvert d'autres formes de littérature qui ne sont pas nécessairement dans le genre de Mark Twain, par exemple. Mark Twain m'a beaucoup marqué. Conan Doyle, dans tous ses récits, pas seulement dans les Sherlock Holmes, mais également dans ses récits historiques qui sont très peu connus en France. D'ailleurs, je peux faire une petite parenthèse, si vous aimez un petit divertissement, mais bien écrit, un peu historique, lisez Sir Nigel et la Compagnie Blanche, est publié chez Phoebus. Je fais de la pub, je n'ai pas de droit d'auteur, hein, donc c'est vraiment parce que c'est bon. De Conan Doyle, qui était son grand regret, parce qu'il a toujours rêvé d'être connu pour autre chose que Sherlock Holmes, mais c'est simplement l'histoire. Et voilà, et ça c'est très très bon à lire, très très plaisant, très divertissant. L'été sur les remparts de Saint-Malo, ça doit être délicieux en plus. On est dans le contexte.
Agatha Christie aussi.
Agatha Christie a compté. Tolkien, bien sûr, la claque du Seigneur des Anneaux quand j'étais gosse. L'idée d'un roman univers dans lequel on est vraiment embarqué, et de finir un livre épuisé en se disant bon sang, mais c'est probablement le livre qui m'a amené vers l'écriture. Vraiment, le Seigneur des Anneaux, c'est le livre où je suis arrivé à la fin, vidé. Je lisais le matin à 5h du matin, je me levais tôt exprès avant d'aller au collège pour pouvoir avancer un peu plus. Et je me souviens m'être dit à la fin, bon ben voilà, en fait j'ai compris mon problème dans la vie, c'est que moi ce que je veux vivre c'est ce qu'il y a dans ce livre-là, c'est pas ce qu'il y a dehors, le collège, les profs, les copains, les machins, non c'est ça. Et la vraie frustration qui en découle et qui m'a petit à petit amené à écrire, pour essayer de m'inventer des histoires que je ne trouvais pas dans la réalité.
Et vous aimez aussi des auteurs, entre guillemets, qu'on met plutôt en littérature dite blanche, comme Louis Ferdinand Céline, d'autres encore. Donc vous êtes l'exemple typique du romancier qui assume ces deux cultures, une littérature de littérature dite populaire, encore une fois avec des guillemets, une littérature plus difficile, plus institutionnelle, même si sur Louis Ferdinand Céline, c'est évidemment un petit peu plus compliqué.
Mais parce qu'en fait, j'aime lire, tout simplement. J'aime la lecture, j'aime la littérature, et pour moi, on peut, pour des questions de raccourcis, pour gagner du temps, cloisonner, mettre dans des genres, dans des boîtes, et je le comprends, et je le fais moi-même souvent, la littérature en général, mais j'aime lire avant toute chose. Après, j'aime lire Céline, j'aime lire... Mon auteur préféré, c'est Alessandro Barreco, pour des tas de raisons, j'aime pas tout ce qu'il fait, mais Océan Mer, Novecento Pianiste, sont pour moi des ouvrages. Voilà, j'ai lu ça, je me suis souvent dit, ça y est, tout est là, quoi. J'aime lire de manière générale, je m'arrête pas à un genre. Mais c'est vrai qu'après, dans ce que j'écris, on retrouve plus une petite partie de mes inspirations, pas tout.
Alors, quelque chose qui est assez troublant quand on regarde votre bibliographie, j'ouvre l'ouvrage, on s'aperçoit que vous fonctionnez systématiquement par cycle, par diptyque, trilogie, etc. etc. Pourquoi avez-vous besoin déjà d'imaginer une histoire, entre guillemets, en plusieurs volumes, ou plusieurs histoires réunies sous un même intitulé?
Pour deux raisons. La première, c'est que j'ai un vrai problème, c'est que j'ai beaucoup d'imagination et pas assez de temps pour me servir de tout ce que j'aimerais faire, tout ce qui me vient en tête. Alors je dis pas que j'ai que des bonnes idées, loin de là, mais de temps en temps je me dis tiens, ça pourrait être pareil pour un bouquin, mais alors il y aurait ça, ça et ça et ça dedans, et à la fin je me dis si je vire ce qui me semble être des fausses bonnes idées, il reste quand même trop de matière, trop de densité pour un livre. C'est trop, c'est too much, donc il faut faire des choix. Et très souvent, quand j'écris, il y a un deuxième élément qui se met en place, c'est que tout à l'heure, je parlais d'écrire pour divertir. Ça, c'est la première couche. La vérité d'un livre, c'est que quand je commence à écrire un livre, moi, je sais pourquoi je l'écris. C'est jamais avant tout juste pour l'histoire qui va vous divertir avec le petit truc à la fin du bouquin. C'est parce que j'ai envie de parler de quelque chose qui me tient à cœur. Je vais parler de la dynamique criminelle. Est-ce qu'elle est biologique? Est-ce que l'impact de la société est plus important que l'impact biologique chez un individu dans sa dynamique criminelle? Ça c'est la théorie Gaïa. J'ai envie de parler du rapport de l'homme à l'éducation, à la filiation, etc. C'est l'âme du mal. La géopolitique, l'autre vision de l'histoire, la façon dont on réécrit l'histoire, la façon dont l'histoire est écrite par les gagnants de tous les conflits, qu'ils soient de type une guerre, etc., ou simplement économique. L'histoire dans les manuels scolaires n'est jamais une histoire objective, c'est une histoire rédigée par les vainqueurs des conflits, sous toute forme, quelle qu'elle soit. Et j'avais envie d'écrire un livre pour en parler. Et donc, à chaque fois, je suis animé par une envie de parler de quelque chose, et cette envie-là, je la recouvre de tout un tas de petites couches, de tout un tas de vernis qui sont les vernis du divertissement. Au final, souvent, mon idée principale, elle ne peut être vraiment bien traitée que sous différents éclairages. Un peu comme quand on fait un travail de philosophie avec une forme, si je fais un raccourci rapide, thèse, antithèse, là c'est un peu ça dans un roman, c'est qu'on a un premier éclairage sur un sujet bien précis, et puis on se dit, là c'est un vrai divertissement, mais derrière il y a une réflexion. Mais cette réflexion-là sur ce sujet-là n'est pas suffisante, il en faut une autre de l'autre côté. Bon, là c'est la suite, c'est la suite du diptyque, ou parfois une trilogie, parce qu'il y a trois éclairages intéressants à voir, pour parler d'un même sujet, la définition du tueur en série, par exemple, etc. etc.
Alors, justement, cette fascination pour les tueurs en série, vous l'avez véritablement. Est-ce que, d'une certaine manière, écrire, pour ce qui concerne certains de vos livres, c'était le moyen, un petit peu, d'être flic, tout simplement, et de travailler dans la police scientifique, par exemple?
Non, je pense pas, parce que j'ai fait des études de criminologie pour écrire, en réalité. Ça n'était absolument pas pour motiver pour autre chose que pour écrire un roman, L'âme du mal. J'avais en tête, je m'étais dit, je veux écrire un bouquin, je sais exactement ce qu'il me faut, mais il me faut un socle de connaissances que je n'ai pas. Et les livres que j'ai lus, alors il y avait surtout peu de choses en français, mais en anglais, les livres que j'avais lus, qui étaient des manuels très théoriques, étaient bien, mais il fallait que je pousse un peu plus loin. Donc j'ai fait des études de criminologie pour pouvoir me préparer à écrire un roman. Et de manière générale, je suis toujours... Je procède comme ça, c'est-à-dire que j'essaie d'amasser, de colliger un maximum de documentation, de rencontrer des spécialistes, d'aller sur les lieux, de trouver les lieux qui correspondent le mieux à l'histoire, pour créer mon histoire, pour densifier, pour la rendre crédible. Et, Et après,
c'est une de vos méthodes de travail.
Oui, ouais, c'est vraiment une méthode de travail régulière. Et après, la fascination des tueurs en série, elle est surtout dans la... J'ai eu envie de comprendre... En fait, un jour, je me suis interrogé, je me suis posé la question de savoir est-ce que le mal existe ? Je ne suis pas quelqu'un de religieux. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que le mal ? Déjà, si on cherche à le définir, en mettant de côté une définition qui serait purement religieuse, etc., est-ce que cette notion-là existe dans la société biologique animale, etc. Et si oui, comment la définir, comment l'identifier, et si est-ce qu'elle est inhérente à l'homme, cette notion, etc., etc. Et c'est comme ça que je me suis intéressé à un moment au tueur en série, parce qu'il était la quintessence de cette notion-là du mal. Et c'est comme ça que petit à petit l'idée d'écrire non pas un livre mais trois sur le tueur en série est venue. Et que de livre en livre, j'ai eu envie de pousser un peu plus jusqu'à finalement. D'ailleurs, j'ai un trou de mémoire. Si c'était dans le Requiem des Abysses où j'ai fini par terminer sur ce qui est la définition pour moi du mal en une phrase. Je l'avais théorisé pendant très longtemps sur des longs moments, et à un moment, j'ai pu tout synthétiser en une phrase à la fin du Requiem des Abysses.
Maxime Chatham, est-ce que vous écrivez de nombreuses horreurs pour canaliser votre côté obscur en quelque sorte?
Je ne crois pas que je canalise mon côté obscur. En revanche, j'écris des choses noires parce que ça me rassure, parce que finalement, l'homme a peur de ce qu'il ignore. Quand on connaît quelque chose, on en a nettement moins peur. Et pendant très longtemps, j'étais un peu effrayé par l'homme. Adolescent, j'avais peur de l'homme. Je n'étais pas une bête farouche dans son coin, pas du tout, mais l'homme dans son entièreté, dans sa globalité, etc., me faisait un peu peur, et j'avais un côté un peu misanthropique. Je n'étais pas très optimiste sur ce qu'on était, et je me disais que finalement, si un bon jour il y avait un bon gros virus et qu'on disparaissait de la surface de la Terre, ce serait peut-être pas un mal pour la planète, pour ça. Je n'étais pas super optimiste. Et j'étais assez inquiet sur ce que l'homme est capable de faire de pire. Et finalement, en écrivant sur le tueur en série pour comprendre ce qu'était la notion du mal, pour le faire, il a fallu que j'aille puiser, moi, dans ma part d'ombre. On a tous une part d'ombre. Simplement, moi, je vivais avec, comme tout le monde, sans trop m'interroger sur ce qu'elle était, sur sa teneur, sur sa densité. Et il a fallu plonger, chercher, creuser, mettre les mains dans le cambouis, et se dire, un peu comme un comédien ferait pour incarner un personnage, il n'y a pas besoin d'avoir vécu des trucs terribles pour incarner au cinéma un type qui vit des trucs terribles. En revanche, il faut être capable de se projeter dans l'idée de ce que c'est que de vivre dans quelque chose de terrible, donc d'aller chercher un matériau très brut, très noir en soi, et de le faire vivre ensuite. Et c'est ce que j'essaye de faire quand j'écris des histoires assez noires. Je vais puiser à l'intérieur, et j'essaie de mettre ça à plat devant moi, et voilà, d'étaler, disséquer ce qu'il y a de plus sombre en moi pour pouvoir m'en servir, pour écrire des histoires. Donc je me sers de cette matière noire pour écrire, mais je ne crois pas que j'écris pour évacuer.
Alors, je pense qu'avec les deux livres que je tiens entre les mains, le Requiem des Abysses et Entropia, on a deux facettes de votre univers. J'aimerais tout d'abord évoquer Autre Monde, Entropia, qui est le dernier volet. Juste histoire de contextualiser, qu'est-ce que c'est que cette chose-là ? Qu'est-ce que c'est que l'autre monde ?
Autre Monde, en fait...
Qu'est-ce que c'est ?
Est un moment dans ma vie d'auteur de thriller pour adultes. Si vous en avez lu un ou deux, la plupart, vous saurez donc que j'écris des trucs assez noirs. J'ai eu envie de me faire une petite parenthèse, une petite récréation. Et j'ai envie de retourner vers des auteurs qui m'avaient fasciné, qui m'avaient donné envie de lire au tout début, que sont William Golding, Sa Majesté des Mouches, Jules Verne, Barjavel, Tolkien, Mark Twain, etc. etc. Et je me suis dit, je vais me faire plaisir avec un récit qui sera certainement un récit pour enfants. Bon, j'ai écrit 20 pages, je me suis rendu compte que je n'écrivais pas pour les enfants, parce que j'allais avoir un double lecture. Dans l'autre monde, vous avez un personnage qui s'appelle Le Buveur d'Innocence. Les jeunes lecteurs le voient comme l'incarnation de l'ogre, un peu, du sale type. L'adulte, sans que ce soit dit, voit très vite que c'est un pédophile. Mais les choses ne sont pas dites très précisément, on les comprend, elles sont suggérées. Et toute la saga est écrite de cette manière-là, ce qui fait qu'au final, j'ai écrit pour des adultes ce qui peut être lu par des enfants, et c'est une série qui est un vrai divertissement, dans lequel je m'autorise à peu près tout, puisque c'est un livre qui n'est écrit qu'avec aucune documentation, mais qu'avec de l'imagination. Et c'est une série qui part du principe qu'un beau matin, il y a une tempête terrible sur Terre, et au petit matin, le gamin se réveille, celui qu'on découvre sur les 20-50 premières pages, se réveille et se rend compte que la ville de New York dans laquelle il est couverte de neige et qu'il est seul. Très vite, il va se rendre compte qu'il n'est pas totalement seul. Il y a quelques adolescents, quelques enfants qui ont survécu. Ils vont devoir se rassembler pour survivre et peu à peu se rendre compte que les adultes ne sont pas tous disparus, n'ont pas tous disparu, mais qu'ils sont rassemblés pour certains au sud du pays et qu'ils obéissent à une femme très étrange qui, elle, contrairement à tous les adultes qui ont perdu la mémoire, ne sent pas avoir perdu la mémoire, s'appelle Malronce, et qui est une reine très particulière qui a décidé de traquer les enfants. Je n'en dis pas plus, c'est une série d'aventures, c'est une série... il se passe plein de choses sur l'imagination. Et à partir du moment où on accepte le postulat de base qui dit « une tempête terrible change le monde en une nuit », en un peu plus qu'une nuit en réalité, et que cette tempête a peut-être des origines quasi scientifiques, en tout cas liées à la Terre, si on considère que la Terre est peut-être d'une certaine manière une entité comme les Grecs l'appelaient Gaïa, si vous acceptez juste ce principe-là, qui est, je reconnais, un peu du domaine de la science-fiction, tout le reste derrière est expliqué par ce principe. Ce qui fait que les gamins qui développent ce qu'eux vont appeler une altération n'est pas du tout magique, c'est juste quelque chose de génétique qui s'est passé en eux, etc., etc., etc. Et toute la série est comme ça. Tout ce qui semble complètement démentiel, si on regarde bien, il y a une explication qui se rattache à cette première, à ce postulat de base. Voilà. Donc c'est du vrai grand divertissement avec lequel je m'amuse entre deux thrillers beaucoup plus complexes à écrire.
Alors, il s'agit du quatrième tome d'Autre Monde, Entropia. Est-ce que Maxime Chatham, lorsque vous lancez dans l'écriture d'un tome dans une série d'ouvrages, vous vous posez cette question: est-ce que le lecteur qui n'a jamais lu cette série va pouvoir comprendre mon histoire en commençant, pourquoi pas, par celui-là?
Alors, clairement, non.
Moi, ça, vous en moquez complètement.
Il y a un moment où il faut se poser la question de se dire: est-ce que j'écris... mon éditeur me dira que, commercialement parlant, c'est pas très malin de ma part, mais... Enfin, on n'écrit pas pour... Faut écrire l'histoire qu'on a envie. Et non, clairement, un lecteur qui commencerait par le tome 2, 3 ou 4, ça m'est arrivé, des gens m'ont dit, peut-être qu'il y a quelqu'un parmi vous qui en témoignera, mais des gens m'ont déjà dit, moi je suis arrivé dans Autre Monde, j'ai lu le tome 2 ou le tome 3 avant les autres. Bon, je n'ai pas tout saisi pleinement, mais enfin, ça ne m'a pas empêché de rentrer dans le truc, de tout dévorer, de revenir en arrière.
Un petit peu comme avec les séries télé, en quelque sorte.
Oui, ça peut marcher, mais j'ai envie de dire que c'est dommage. C'est comme de prendre, une saga au cinéma par le tome 3 ou 4, alors qu'il y avait déjà le 1-2. Donc, je ne me pose pas cette question parce que cette série-là est faite pour être lue dans l'ordre, parce que c'est mieux comme ça, et que c'est une vraie... c'est ce qu'on appelle une série feuilletonnante, c'est-à-dire que à la fin du tome 1, vous avez des réponses à certaines questions, et vous n'avez pas toutes les réponses. Pareil à la fin du tome 2. Il y a une première fin à la fin du tome 3, où vous pourriez même vous dire ça peut s'arrêter comme ça, mais en réalité, il y a un tome 4.
Mais voilà, vous enchaînez.
Voilà, j'enchaîne, il y a un tome 4. En réalité, il y en a 7. Il y en aura 7. Je suis en train de faire le tome 5, là. Il y aura 7 volumes. Pourquoi ? Parce qu'au tout début, quand j'ai commencé à jeter les premières notes de ce qu'allait être Entropia, Autre Monde, pardon, il y avait plein de choses, et je me suis dit, bon, je vais faire un tome, c'est impossible, je vais découper l'histoire. Et j'ai découpé un peu l'histoire, et les grandes lignes m'amenaient à peu près à 3 bouquins. Et puis très vite, je me suis rendu compte que c'était 3 bouquins qui allaient être des pavés de 900 pages ou 1000 pages chacun. Je me suis dit, oh, c'est pas digeste, quoi. Il y a trop de trucs, ça part dans tous les sens. Il y a deux histoires très importantes. Le plus intelligent serait de couper les deux histoires, de raconter d'abord une première histoire, c'est-à-dire la tempête, ça c'est même à peine 100 pages, la mise en place dans le tome 1, et puis cette interaction entre les gamins qui s'autoproclament Pan, en hommage à Peter Pan, et puis en face les cyniques, comme ils vont appeler les adultes, et tout ce qui va se passer, les conflits, etc., la découverte de ce monde, les grandes aventures, les personnages, etc. Et ça, finalement, cette trajectoire-là, c'est les trois premiers tomes. Il y a une fin, une résolution des conflits, fin du tome 3, sauf que derrière, il y a quelque chose de beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus vaste sur ce qu'est réellement la tempête, etc. Et ça, c'est les tomes 4 à 7, et c'est ce que je suis en train de raconter avec le tome Entropia, qui est vraiment une transition entre les deux cycles. Voilà, donc il y aura 7 volumes, et je vous conseille de les lire dans leur ordre vraiment.
Alors, Entropia peut rentrer, je m'adresse à l'ancien libraire, dans ce qu'on appelle la littérature pour jeunes adultes, young adult, comme on dit, chez les anglo-saxons. Et donc, à côté de ça, on a le Requiem des Abysses, qui là, pour le coup, est plus adulte, a priori.
Oui. De temps en temps, j'ai des jeunes lecteurs qui arrivent avec Autre Monde et leurs parents, et puis qui voient et qui rêvent, « Oh, je n'ai pas lu celui-là qui montre Prédateur ou La Promesse des Ténèbres. » Je mets la main dedans, je fais, « T'es pas prêt. »
Mais sur votre manière d'écrire, est-ce que vous écrivez différemment, vraiment dans le le style pour la saga Outremonde ou pour un ouvrage tel que Requiem.
Oui, c'est pas pareil. C'est pas pareil parce que Outremonde.
Techniquement, ouais, non, manière d'écrire.
Outremonde me demande finalement une préparation très, très, très relative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai la structure des 7 tomes. Et je rédige comme ça vient, en suivant à peu près les arcs narratifs que j'ai déjà préparés pour avoir une idée précise des 7 volumes. Ce que j'aime bien quand j'écris des séries entières, savoir comment ça commence, comment ça finit, et comment c'est articulé, pour pouvoir semer des éléments dès le premier, et de manière à ce que, quand vous lisez une série avec 2, 3, un diptyque, ou une trilogie, ou 7 volumes, etc., dans ce que j'écris, vous pourrez, en arrivant à la fin, vous dire « Ah bah, en fait, dès le premier tome, il avait déjà prévu comment ça se finirait, puisqu'il y avait déjà, si je regarde bien, des petits éléments au fur et à mesure. » Et ça, c'est quelque chose qui m'est vraiment cher. J'aime pas la littérature du hasard. J'aime pas les auteurs qui se laissent porter par les personnages, qui vont au pifomètre, etc. Moi, j'aime que tout ait un sens, que tout soit coordonné. J'aime que les prénoms des héros veuillent dire quelque chose. J'aime que les interactions fassent du sens. Voilà. Si on prend le temps, le romancier crée tout. Tout de A à Z de son livre. Donc, pourquoi se priver de mettre du sens partout même si on sait très bien que 99% des éléments passeront, enfin les lecteurs passeront totalement à côté des éléments, ils seront portés par l'histoire et point barre. Mais il suffit que de temps en temps, il y a un lecteur qui s'arrête et dit « Ah tiens, là, il y a ça qui veut dire ça, je connais, c'est rapport à ça, c'est pas mal, j'aime bien. » Je suis en train de rédiger un truc en ce moment, le type s'appelle Antoine, il n'y a jamais son nom de famille, il habite rue de Padoue. Mais les deux informations ne sont pas au même moment, et sauf que c'est un vieux monsieur qui a un don, il trouve les objets des gens perdus et il retrouve les propriétaires. Il a ce don-là. Bon bah, Antoine de Padoue, c'est une évidence, sauf que comme c'est pas mis précisément dans le bouquin, les gens ne le comprennent pas. Et voilà, mais moi je le sais. Et c'est comme ça dans tout le livre, c'est comme ça dans tout le bouquin. Tout fait sens. Et du coup, quand j'écris un livre comme Outremonde, finalement je n'ai qu'à penser à ça faire sens. Le reste, ça se fait simplement, c'est de l'imagination. Ça, j'en manque pas. En revanche, un thriller, c'est une vraie structure. La phrase même est plus complexe. Outremonde, on raconte, il y a une sorte d'envolée lyrique, et on se laisse porter par les mots tels qu'ils viennent, et après, dans la correction, il y a des ajustements. Mais alors que le thriller, c'est plus compliqué. Il faut vraiment prendre le temps, le bon mot, les paragraphes, ça se recorrige longtemps, la virgule fait plus de sens, retirer, etc. Il y a un travail d'écriture qui est plus exigeant, je trouve, moi, dans le thriller, alors que Outremonde, et je dis pas que c'est pas pour galvauder le travail qui est fait sur Outremonde, c'est une autre écriture. Outremonde se laisse porter, se laisse couler, ce qui fait que c'est, d'ailleurs à la lecture aussi, je trouve beaucoup plus rapide de lecture.
Alors, quand vous entamez un thriller tel que celui-ci, est-ce que vous avez tout découpé au début, chapitre par chapitre, en disant il va se passer ça, et ensuite vous mettez à l'écriture, ou vous vous gardez une petite marge?
Non, je me garde une vraie marge. C'est-à-dire que je sais comment ça commence, je sais comment ça finit, j'ai les grandes articulations essentielles du récit.
Mais chapitre par chapitre, il y a toujours.
Mais il y a pas. Non, je ne fais pas chapitre par chapitre, parce que justement, ça me permet d'avoir début-fin, des grands moments importants. Alors, des fois, j'ai 3-4 moments importants sur les 150 premières pages, j'ai plus rien après pour les 200 pages qui suivent, et puis j'ai toutes quasiment les 150 suivantes. Mais c'est pas grave, parce que les choses se font au fur et à mesure. Simplement, ce qui compte, c'est de savoir où je vais dès le début. Pour pouvoir justement, ce que je vous disais tout à l'heure, tout prévoir, tout calculer et se permettre d'avoir moins de travail, de recorrection, de revenir en arrière. Parce que si vous calculez moins, si vous prévoyez moins, quand vous arrivez à la fin du livre, pour redonner du sens global à tout le livre, ça veut dire qu'il faut revenir dès le début, réécrire des passages entiers, voire réécrire quasiment souvent les 150-200 premières pages intégralement. Et c'est une perte de temps. Alors que si dès le début vous préparez le bouquin, vous prenez le temps de. Et bah du coup, pendant l'écriture, vous faites les choses, c'est du temps de gagner sur les corrections, sur la relecture.
Alors justement, le Requiem des Abysses, c'est un diptyque avec Léviathan, T-E-M-P-S, pas T-H-A-M, voilà. Vous nous plongez dans le passé. Alors, est-ce que pour un véritable thriller historique, pour la conception de celui-ci, vous êtes entouré énormément de documentation pour savoir tout précisément sur la France de 1900, ou c'est une France un petit peu imaginée à votre manière, et vous avez là encore gardé une marge de liberté dans l'imagination?
Justement parce que dans mes thrillers, je ne garde pas cette marge de liberté, en tout cas sur les faits, sur les lieux, j'ai eu besoin de faire Outremonde. Parce que dans mes thrillers, comme dans le diptyque du temps, j'ai fait comme d'habitude, c'est-à-dire que j'ai collé à la réalité. Donc, thriller historique, donc documentation, pour être très très proche de ce qu'était le Paris en 1900. Pour écrire le diptyque, c'est à peu près un peu plus de 7000 pages de documentation. C'est une étagère complète de bouquins à la maison, une vraie grosse étagère, et c'est plusieurs milliers de photographies d'époque et de plans. Bon, parce que le Paris de l'époque, c'est pas le Paris d'aujourd'hui, et qu'il faut coller à l'ambiance, il faut coller au personnage, au métier de l'époque. Et finalement, tous les petits détails, les petites anecdotes qui n'ont l'air de rien au fil d'une phrase, d'un paragraphe dans le diptyque, tout est vrai. Moi, je n'ai fait qu'inventer des héros, inventer une interaction entre eux, poser un crime au milieu avec un personnage criminel, et lui donner un sens, pour pouvoir raconter quelque chose qui, pour moi, fait sens, et qui est finalement... synthétisé dans ce que j'ai appelé non pas l'épilogue mais l'épitaphe de ce livre, mais finalement tout le reste est ancré dans le réel. Je n'ai rien inventé. L'exposition universelle, je l'ai écrite telle qu'elle était, les rues de Paris telles qu'elles étaient, les métiers de l'époque, tous les petits détails, tout ça c'est des petites choses que j'ai piochées à droite à gauche pour pouvoir faire revivre un Paris qui a disparu.
Est-ce que le personnage de Guy, c'est vous, comme on dit, Madame Bovary, c'est moi?
Alors,
on est bien obligé d'y penser beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Oui, alors, c'est très, très particulier. J'ai envie de dire que Léviathan et Requiem aux Abysses sont deux livres à prendre dans ma bibliographie et à séparer de tout le reste. Pour une raison très particulière, c'est quand j'ai commencé à écrire Léviathan, je me suis dit, pour la première fois, je vais faire quelque chose que je me suis toujours interdit, c'est de prendre un héros qui est romancier. Parce que justement, je savais que le jour où je le ferais, j'allais forcément parler de moi, me mettre en scène d'une certaine manière. Et parce que quand on est romancier, qu'on parle d'un romancier, ça devient un moment inévitable.
Il n'y a pas que ça.
Et il y a un moment où je me suis dit, bon, il faut aller plus loin. Il faut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que je vais prendre un romancier, mais je vais lui filer un prénom qui est mon second prénom, Guy. Et son pseudonyme dans le bouquin, c'est Toudrakmato, qui est l'anagramme de mon vrai nom et de mon pseudonyme. Et tout est comme ça dans le livre. Et ça a été tellement loin qu'à l'époque où j'ai écrit Léviathan, là je vous fais une petite digression sur ma vie privée, on ne va pas aller trop loin, mais... à l'époque où j'écris Léviathan, je cherchais le prénom de la femme qu'il allait rencontrer, qu'il allait le séduire, et j'ai longuement cherché, et à un moment, en écoutant une émission que de temps en temps j'écoutais à la radio sur Europe 1, j'entends le nom de l'animatrice qui s'appelait Faustine, et je me suis dit, tiens, ce prénom est parfait. Elle va s'appeler Faustine.
J'ai eu peur l'espace d'un instant quand on connaît la profession de celle-ci, voilà.
Oui,
évidemment.
Sauf que l'histoire fait qu'il tombe amoureux dans le livre et que... que je vais l'épouser, la vraie voilà. Faustine.
D'accord.
La vraie histoire se...
voilà l'explication, voilà. Mais justement, alors, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui se passe dans cet ouvrage?
On suit un romancier qui finalement va essayer de comprendre ce qu'est justement la pulsion criminelle en se servant de sa propre zone d'ombre et qui va très vite... l'idée finalement, parce que j'essaie de ne pas résumer le livre pour ne pas trop en dire à ceux qui n'auraient pas lu Léviathan, l'idée globale du diptyque,
juste je pense quelques que clés en tout cas.
Voilà, c'est mieux de résumer comme ça. L'idée globale du diptyque, c'est à quel point le romancier est maître de tout ce qu'il crée, à quel point le romancier, dans la réalité virtuelle qu'il s'invente, ne mélange pas justement la réalité, et à quel point est-ce que le monde virtuel ne mélange pas avec sa réalité. Dans le premier roman, dans Léviathan, vous avez un romancier qui va se servir de ses méthodes d'écriture, qui va appliquer à ses méthodes. Est-ce qu'un romancier qui passe son temps à essayer de comprendre comment est-ce qu'on tue, comment est-ce qu'il devient une sorte d'expert de la pulsion criminelle, est-ce que pour autant il pourrait être un bon enquêteur? Et donc on va le suivre dans ses pérégrinations, dans Léviathan. Et puis il y a une grande histoire, et ça se termine, on sait qui est quoi, qui est le coupable, pourquoi, etc. Et puis vous avez un deuxième roman, Le Requiem des Abysses, qui se passe quelques temps après, et vous avez L'autre côté du miroir. La même histoire vue autrement. Voilà. Et là, on se rend compte que entre réalité et réalité virtuelle, il y a parfois des toutes petites nuances, mais qui font toute la différence.
En même temps, étant donné le contexte et cette époque très précise, en vous lisant, on est obligé de penser un petit peu au roman feuilleton de cette époque-là. Est-ce que c'est cet esprit qui est un petit peu aujourd'hui oublié, que vous avez cherché à retrouver?
Oui, il y avait déjà une sorte de... pas de mélancolie, parce que je ne l'ai pas vécu tel quel, mais quand j'étais gosse, j'aimais bien lire. Pour les romans feuilletons, pour une écriture, j'ai relu pas mal d'auteurs des années 1900, Leroux, etc., j'avais envie de retrouver un petit peu ce côté-là, j'avais en même temps envie de parler de notre monde, de la bascule qui est en train de s'opérer dans notre société aujourd'hui en 2012, en tout cas au début des années 2000 et encore aujourd'hui. Et je me disais au tout début, quand j'ai commencé à réfléchir à des grandes lignes de réflexion sur notre société actuelle, je me suis rendu compte qu'en parler, en situant l'action aujourd'hui, était un peu... fonctionnez pas de la même manière qu'un historien vous dit toujours que pour parler d'histoire, il faut toujours attendre 20 ans sur un fait. Et du coup, je me suis rendu compte que j'aime bien l'histoire en général, j'aime bien lire des choses, des tas de trucs, et j'aime bien la période de 1890-1940. Et en relisant des tas de bouquins sur le début du XXe, je me suis rendu compte que finalement, le début du XXe siècle avait vécu énormément de choses qu'on est en train de vivre aujourd'hui, sauf qu'à la différence près, c'est que la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, qui est en train d'atteindre une sorte de paroxysme, qui ne veut pas dire une fin, mais qui veut dire une nécessité de développement différent, cette société-là s'est installée il y a pile poil un siècle, alors qu'elle était en train de vivre des grands bouleversements idéologiques, spirituels, etc., que nous vivons en ce moment. Et je me suis rendu compte, plus je lisais sur le sujet, plus il y avait vraiment un parallèle à faire. Et c'est comme ça que j'ai eu envie d'écrire un roman, et puis plus tard un diptyque, sur 1900, pour parler de ce que nous vivons, nous, aujourd'hui. Et cet épilogue, cet épitaphe qui clôt le diptyque, est une synthèse sur cette époque-là, sur notre époque aujourd'hui, et qui rappelle à quel point est-ce que finalement, on avait atteint en 1900 une époque, un pic dans nos terreurs. On est dans une forme d'industrialisation qui devenait massive, dans laquelle l'homme avait peur de perdre son âme, dans laquelle on craignait que les machines prennent la place de l'ouvrier. On est dans une société qui avait peur de l'étranger, dans laquelle on passait son temps à dire que l'étranger nous volait nos métiers. On est dans une société qui avait peur du voisin de l'autre côté de la frontière à cause des guerres et pour des tas d'autres raisons. On était dans une société dans laquelle on considérait que le politicien était véreux et que de toute manière, que ce soit lui ou lui, c'était toujours pareil, c'était tout foutu. Et du coup, des extrêmes montaient. On était dans une société où il y avait une sorte de rejet total de la société telle qu'elle est définie dans son rapport à l'argent, avec ceux qui ont de l'argent sont tous des pourris et ceux qui n'en ont pas ont le monopole de la vérité, et à l'inverse, une vision assez négative de ce qu'ils sont par les sommets de la pyramide, etc., etc. Et je pourrais vous faire l'analogie pendant des heures, la comparaison entre aujourd'hui et à l'époque, mais au final, je me rendais compte à quel point est-ce que les peurs de l'époque sont les peurs d'aujourd'hui, et qu'elles ont toutes convergé vers un point, et elles ont toutes débouché sur quelque chose de très précis, qui est la Seconde et la Première Guerre mondiale. Et voilà, et par conséquent, même si je ne dis pas qu'on est au seuil d'une guerre mondiale, ce n'est pas l'idée du livre, mais en tout cas d'une forme de conflit qui n'est peut-être plus aujourd'hui dans les armes directement, mais qui a une autre forme. Et voilà, et le livre s'est construit de cette manière-là.
Alors, le temps avance, pour ne pas dire Léviathan avance, désolé pour le mauvais jeu de mots, et donc, chose promise, chose due, la parole est à vous, si vous avez quelques questions, évidemment, à poser à Maxime Chatham. Je sais que pour la première ou le premier, c'est toujours un petit peu difficile. N'hésitez pas.
N'hésitez pas, je suis un grand bavard et comme vous l'avez remarqué, je pars en digression.
Monsieur, devant.
Bonjour. Je voudrais savoir, en termes de proportion, entre le temps de préparation d'un roman et le temps de rédaction, quel est le ratio, en fait ?
Alors, aujourd'hui, c'est très difficile parce que pendant très longtemps, je découpais, je faisais attention à préparer, et puis une fois que c'était prêt à écrire, et pas tout mélanger. Et donc, je mettais grosso modo un an. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai plus d'expérience, que je fais les choses autrement. Donc, ça va plus vite parce qu'aujourd'hui, je mélange tout. C'est-à-dire que pendant que j'écris un roman, je me fais des petites pauses dans la journée, le midi, le soir, des fois, je me prends l'après-midi entière ou un petit bout de week-end, pour préparer le roman suivant ou un des romans à venir. Parce qu'en fait, dès que j'ai une idée qui me semble intéressante, je la prends, je la mets dans un cahier. Et toutes ces idées-là, de temps en temps, convergent vers un roman, une idée de roman. Dans ce cas-là, je prends un autre cahier spécifique et je commence à mettre ces idées-là précis. Je les développe. Et ce qui fait qu'au quotidien, j'ai en gros un cahier pour mettre des trucs en vrac et plein de petits cahiers qui chacun correspondent à un roman, en fait, pour un jour. Donc aujourd'hui, quand le 26 mai 2012, on parle, chez moi, il y a, je crois, 7 cahiers prêts, enfin en cours de rédaction, donc il y a 7 romans qui commencent à être vraiment définis en cours d'élaboration, et puis plein d'autres projets en vrac pour des tas d'autres trucs qui ne sont pas encore bien définis. Donc là, par exemple, il suffit tout à l'heure dans le train, j'ai eu une idée dans la journée, je vais le prendre dans mon cahier en vrac, je vais noter. Et puis, soit ça restera en vrac, soit je vais aller le consigner dans le cahier qui correspond au roman où ça pourrait aller. Et du coup, quand je finis de rédiger, là je suis en train de finir de rédiger un bouquin, dans 10 jours j'en attaque un autre, je vais attaquer autre monde parce qu'au jour d'aujourd'hui c'est le cahier qui est le plus rempli. Donc je prends autre monde et je me lance dans l'écriture parce que celui-ci il est prêt dans ma tête, parce que plus les semaines le temps passe et plus je sens que voilà, c'est à ça que je pense le plus souvent, c'est ça que j'ai le plus envie d'écrire, c'est ça qui me donne le plus envie de me lever le matin. Donc là je termine ce que je fais et puis derrière je vais enchaîner sur ce livre là et puis pendant que je vais l'écrire je vais réfléchir à autre chose. Donc en général je sais à peu près ce que je vais écrire sur les deux prochains livres. Voilà, ça se passe comme ça. Après c'est un peu plus nébuleux, les choses interagissent, changent. J'aurais dû sortir un thriller au mois de mai dernier. Finalement j'en avais écrit la moitié et puis je me suis arrêté parce que j'avais moins de plaisir et puis parce que je sentais que j'avais vraiment autre chose en tête. Et avant je me suis dit, mon métier c'est pas de faire pour faire, c'est de faire pour avoir du plaisir, pour essayer de partager et d'en donner. Donc je me suis dit, tant pis, j'avais dit que je sortirais un thriller au mois de mai, personne ne m'en voudra si c'est pas le cas, puisque ça permettra d'éviter de faire un livre qui aurait été du remplissage. Donc je le mets de côté, je le sortirai dans un an, et puis on verra bien d'ici là, j'aurai le temps de prendre le temps, de retrouver du plaisir à l'écrire, ou de pas le faire. Et du coup je vais faire ce que j'ai envie. Et voilà, je suis en train de faire un truc qui est totalement différent, un ovni, et puis on verra ça pour plus tard. Voilà, donc j'avance sur plein de trucs en même temps. Donc le ratio est difficile aujourd'hui à vous dire. Je passe plus de temps à rédiger qu'à préparer, c'est une évidence. Mais mine de rien, pour un thriller, pas pour autre monde, parce qu'autre monde c'est très rapide à préparer, c'est quelques journées en général, mais pour un thriller c'est quand même beaucoup beaucoup de lecture d'essais sur les thèmes que je vais aborder dans le livre. C'est des rencontres avec des spécialistes de discipline, parce que je suis pas le spécialiste. Le romancier ne dit en général le spécialiste de rien du tout. Il va faire l'éponge sur un truc précis qui l'intéresse au moment où il va écrire. Donc c'est ce que je fais l'éponge sur un sujet, et puis après je pars sur les lieux aussi en voyage pour trouver les lieux qui correspondent, pour les décrire ensuite au plus près dans le roman, et voilà.
Autre question, monsieur ?
Oui, en fait j'ai deux petites questions, je ne sais pas si les réponses seront aussi courtes. La première, si vous n'aviez pas été libraire, est-ce que vous auriez eu autant de facilité à écrire la qualité d'écriture par rapport aux éditeurs? Et la deuxième, c'est au niveau des correcteurs. Mais est-ce que vous écoutez vos correcteurs pour transformer carrément des passages, ou est-ce que vous restez vraiment sur votre idée?
Alors d'abord, mon papa est breton, donc j'ai la tête dure, donc j'ai du mal à changer d'avis. En même temps, quand on me pointe du doigt en me disant, tu vois, ça c'est peut-être pas très bien équilibré, j'essaie d'écouter et je me rends compte, avec le recul, j'écoute. Mais grosso modo, le livre qui paraît est à 99% ce qui est arrivé sur le bureau de mon éditrice. Il y a très peu de changements, très 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 peu, vraiment pour ne pas dire parfois aucun. Ça va être du détail, hein. Ça va être vraiment un mot, une phrase, un truc, mais l'histoire elle est là, les personnages sont là, et les chapitres, et la pagination est à peu près la même, donc il n'y a pas vraiment de différence. Si j'avais pas été libraire, est-ce que ça m'aurait permis, est-ce que j'aurais eu la même écriture, c'est ça?
Oui, par rapport aux éditeurs que vous avez eu, et la chance de trouver les éditeurs que vous avez à l'heure actuelle.
Alors, est-ce que je peux pas refaire l'histoire, je sais pas. Est-ce que j'aurais trouvé aussi facilement un éditeur? Je n'en sais rien. J'ai juste essayé de trouver le meilleur moyen de trouver un éditeur, de me faciliter la tâche. Ceci dit, l'éditeur qui m'a répondu le premier, qui m'a convaincu de signer chez lui, c'est le seul que je ne connaissais pas à l'époque où j'étais libraire. Comme quoi, des fois, vous voyez. Mais je ne saurais pas vous dire, si j'avais pas été libraire, les choses auraient été différentes, certainement. Ouais.
Ouais, j'ai deux questions qui sont un petit peu liées. La première, c'est savoir si vous avez des projets en dehors de la littérature, je pense notamment au cinéma. Ouais. Et la deuxième, c'est est-ce qu'on vous a proposé de mettre un de vos livres en film?
Alors, en film, non, il y a eu des rencontres, mais pas satisfaisantes. Je ne suis pas partisan de vendre ses droits à tout prix. Si c'est juste prendre le chèque et se dire, ils font de la merde si ça doit être de la merde, et moi je m'en fous, pour la même heure, j'ai pris un chèque. Je ne vois pas l'intérêt. Il y a eu un projet qui aurait pu se concrétiser, et à mon grand regret, ça ne s'est pas fait, c'était avec Alan Parker.
Réalisateur, entre autres, de Midnight Express.
Oui, super, super bonhomme. Puis finalement, c'était gros budget, trop colossal. Alan Parker a été un metteur en scène formidable, mais l'injustice du monde de cinématographique est que quand vous enchaînez quelques films qui ne sont plus des grands succès, on vous laisse moins facilement faire des films très chers. Et c'était un peu le problème, ils voulaient adapter Le Sens du Temps. Et c'était très cher. Ensuite, d'autres projets en cours, non. Je vais même vous dire, sur mes 15 romans, il n'y en a pas un qui est optionné. Pas un. Parce que je ne veux pas faire optionner un de mes livres si derrière les gens ne sont pas motivants pour moi, si je sens que ce ne sont pas des gens qui ont un vrai projet. Si c'est des gens qui se disent juste, là, il y a un truc à faire, allez-y, on va faire un chèque et puis on prend les droits pendant deux ans.
Vous comprenez qu'on puisse s'en étonner. Tout de même, en vous lisant, on peut se dire, ah, bah, le film, on le voit pourtant.
Oui,
en tout cas, dans notre tête.
Alors, en même temps, quand on lit mes bouquins, je crois qu'aussi, on se rend compte très vite que si on doit les adapter, c'est un budget pharaonique.
Mais je veux dire, le film, on peut l'avoir en tête.
Alors oui, oui, mais en plus, je suis très cinéphile, donc moi, ce que j'écris, c'est ce que je vois. Donc, finalement, je ne fais que rédiger le roman du film que je me suis écrit. Donc oui, ça ferait un film, sauf que ça ferait un film à 35 ou 40 millions d'euros à chaque fois. En France, aujourd'hui, ils sont assez réticents à l'idée de faire des films à ce prix-là. Et les Américains ont absolument... s'en contrefoutent totalement parce que ce qui se passe en France, c'est un peu pour nous ce qui se passe sur Mars. Donc voilà, Alan Parker est anglais, c'est autre chose, bref, c'est des rencontres de la vie. Donc il n'y a pas d'option, il n'y a rien. Donc en gros, ça veut dire qu'il n'y aura pas de film si ça doit se faire avant des années et des années. est-ce que j'ai d'autres projets? Oui, c'est mon grand problème, c'est que j'ai toujours des tas d'idées, j'ai jamais assez de temps pour faire. Étant cinéphile, ayant des tas d'idées, et parfois des idées qui ne correspondent pas à un roman, qui ne feraient pas un bon roman, mais qui pourraient faire, je pense, un bon film, j'ai des tas de projets de scénario de film.
Donc pas à 30 millions d'euros, d'accord, c'est bien ça.
Alors si, parce que...
Si, quand même.
Parce que, c'est-à-dire que quand j'écris, je m'interdis absolument de penser à virer un truc, parce que du coup, ça serait facilement adaptable. Ça, c'est hors de question. Et du coup, quand je fais un scénario, j'ai du mal à me retenir. Alors j'essaie de faire attention, d'y penser, d'avoir une pensée économique sur le film. Mais c'est quand même pas toujours des idées simples. Voilà, donc j'ai pris un peu de temps l'été dernier pour ramasser mes idées et faire des vrais traitements. Et j'ai dégagé aujourd'hui, j'ai 7 projets de scénario concrets dans des domaines très variés que ça. C'est de la comédie fantastique au thriller pur et dur, au film métaphysique.
Il n'y a pas de comédie romantique?
Pas au cinéma. Par contre, en roman, il y a un projet, mais j'ai
une
pas le
comédie
temps.
Comédie romantique par Maxime Chatham. Je serais quand même curieux de voir à quoi ça peut ressembler, personnellement.
Déjà, ce que je suis en train de finir aujourd'hui, là, le livre que je suis en train de terminer s'appelle « Le coma des mortels ». C'est une comédie romantique, mais très cynique. Voilà. Je ne sais pas quand ça paraîtra, si même ça paraîtra, parce que pour l'instant, j'ai aucun recul sur le livre, et ça se trouve, en le relisant, je me rends compte que c'est absolument mauvais, et je ne voudrais pas le publier. Mais l'idée de base, j'ai repris l'idée de base de mon premier roman, mais j'ai réécrit intégralement le roman, et d'ailleurs l'idée du livre que je suis en train de faire est absolument finalement éloignée, n'a plus rien à voir avec le premier roman que j'avais écrit, mais non publié. Et voilà, donc non, il y a des tas de projets, des tas d'idées, je bosse sur... si vous êtes, si vous avez possibilité d'être en région parisienne fin octobre, prenez le temps d'aller passer une soirée dans un parc d'attractions, il y en a deux, je ne peux pas vous dire lequel encore, mais voilà. Il y en a un des deux avec lequel je travaille sur une animation pour deux soirées pour Halloween où je suis en train de faire un film pour eux. J'ai écrit et je co-réalise le film. Le concept, ils sont venus me voir en me disant « T'es cinéphile j'avais fait un jour un débat sur le cinéma et ils y avaient assisté. Ils m'ont dit « T'es cinéphile, t'as l'air de bien connaître la technique du cinéma. Est-ce que tu te sentirais de nous faire un film qui fasse... » Ta carte blanche, le seul concept, c'est faire très, 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 très peur. Alors forcément, quand vous me dites ça, vous me faites rêver, donc j'ai dit oui tout de suite. Donc ça dure 15 minutes. Ça dure 15 minutes, et j'espère que ça fera très peur. Et ça sera projeté toute la soirée, plusieurs fois, les deux dernières soirées d'Halloween, enfin d'octobre pour Halloween, dans un des deux parcs d'attractions de la région parisienne. Je ne peux pas en dire plus pour l'instant.
Des grandes oreilles ou un gros ventre?
Ah oui, voilà, ça c'est bon. Alors, dernière question.
Oui, bonjour Maxime, je vais essayer de poser une question courte puisqu'on n'a plus beaucoup de temps. C'était par rapport au sens du temps, justement, dont vous parliez. Est-ce qu'un jour...
Je vais venir à la question.
Est-ce qu'un jour on aura votre réponse à l'énigme ou jamais?
Alors, le sens du temps, l'idée de ce roman, je l'ai écrit parce que je me suis dit, l'essence même du roman policier, finalement, c'est de connaître la vérité. Sauf qu'on ne connaît jamais que la vérité d'une histoire. On ne s'intéresse jamais à la vérité des personnages. Or, la vérité des personnages, il y a autant de vérité que de personnages. Et moi, j'ai eu envie d'écrire un livre dans lequel on allait arriver à la fin d'un roman policier dans lequel serait exposée finalement une vérité satisfaisante, et puis à la toute fin, boum, il se passe quelque chose qui fait qu'on nous suggère qu'il y a une autre vérité possible, celle-ci, mais on ne nous dit pas laquelle des deux est la vraie. La vraie vérité objective du roman, c'est celle-là ou c'est l'autre? Et si vous regardez bien, en réalité, il y a même trois vérités proposées à l'histoire, trois explications proposées à l'histoire, et chaque lecteur choisit celle qui lui semble la plus cohérente.
Alors, sans compter l'hypothèse, cher un célèbre feuilleton, la vérité est ailleurs.
La vérité est ailleurs. Alors, en réalité, la vérité, pour moi, dans le roman, j'ai voulu quand même, dans ma vision très cartésienne de ce que doit être un roman et une histoire en général, j'ai tenu absolument à ce qu'il y ait, en réalité, une et une seule vérité. Il y a trois hypothèses possibles à la fin du sens du temps. Il y en a deux évidentes, une troisième si on cherche bien. En réalité, il y en a une qui est bonne. Les autres sont fausses. Pour trouver laquelle, si vraiment vous ne vous satisfaisez pas de votre vérité, de celle que vous êtes faite à la lecture, si vous voulez trouver la vérité, celle qui est la seule crédible, il faut en lire le livre en étant hyper attentif à un détail, quelque chose de...
Vous n'allez pas balancer quand même, non de...
Ah, je ne vais pas balancer, mais je vais vous donner une piste. Je suis quelqu'un de très cartésien. Il y a un élément, un moment, si on est très cartésien, et si on sait certaines choses qui sont basiques, mais bon, voilà, à un moment, ça va sauter aux yeux. Vous devez vous dire, mais non, mais ça, c'est pas possible. C'est absolument impossible. Donc, si ce qu'il dit n'est pas possible, c'est donc qu'il ment. Si lui ment, donc la vérité est là.
Voilà. Alors, esprit cartésien ou pas ?
Mais je ne peux pas vous dire la vérité, puisque ça serait donc renier le principe même du livre que vous la donnez. Voilà.
Alors donc, esprit cartésien ou pas, bah, vous pouvez y retrouver Maxime Chatham dans quelques instants. Bah, vous serez en signature, aussi bien pour le Requiem des Abysses et le stand d'Albert Michel, Diptyque Léviathan, ou bien encore Autre Monde et le quatrième volet Entropia, et bien d'autres livres. Et il sera absolument ravi de vous signer quelques livres et de discuter avec vous. Merci beaucoup.